Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission Paysages littéraires en compagnie de Louis-Normand Hébert à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM. Récemment, je vous ai lu deux contes de Guy de Maupassant. Le premier, c'était La ficelle. Le second, c'était Toine, ou en québécois, Twen. Et le troisième et dernier conte de Guy de Maupassant, c'est Le papa de Simon. Midi finit de sonner. La porte de l'école s'ouvre et les gamins courent au dehors en se donnant des coups pour sortir plus vite. Mais ils ne s'en vont pas d'un côté et de l'autre pour rentrer dîner comme ils le font chaque jour. Ils s'arrêtent à quelques pas et par groupe se mettent à parler à voix basse. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, est venu en classe pour la première fois. Tous ont entendu parler de la Blanchotte dans leur famille. On est poli avec elle en public, mais les mères entre elles la regardent en la plaignant un peu et en la méprisant. Les enfants pensent de même sans savoir pourquoi. Simon, lui, ils ne le connaissent pas, car il ne sort jamais et il ne court pas avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. C'est pourquoi ils ne l'aiment pas beaucoup, et ils l'ont reçu avec une certaine joie et beaucoup d'étonnement. Ils se sont répétés l'un à l'autre cette parole dite par un garçon de 14 ou 15 ans qui semble savoir beaucoup de choses car il cligne finement des yeux. « Vous savez, Simon, eh bien, il n'a pas de papa. » Le fils de la Blanchotte paraît à son tour sur la porte de l'école. Il a 7 ou 8 ans. Il est un peu pâle, très propre, avec l'air timide. Il s'en retourne chez sa mère quand les groupes de ses camarades, parlant toujours à voix basse et le regardant avec les yeux malins et méchants des enfants qui préparent une mauvaise affaire, l'entourent peu à peu. Ils finissent par l'enfermer tout à fait. Il reste là, planté au milieu d'eux, étonné et hésitant, sans comprendre ce qu'on va lui faire. Mais le garçon, qui est très fier déjà d'avoir apporté la nouvelle, lui demande « Comment t'appelles-tu, toi ?» Il répond « Simon. »« Simon quoi ?» reprend l'autre. L'enfant répète, tout timide, « Simon. » Le gars lui crie « On s'appelle Simon quelque chose. C'est pas un nom, ça, Simon. » Et lui, prêt à pleurer, répond pour la troisième fois « Je m'appelle Simon. » Les gamins se mettent à rire. Le garçon triomphant élève la voix. « Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa ?» Un grand silence se fait. Les enfants sont très étonnés devant cette chose extraordinaire, impossible, un garçon qui n'a pas de papa. Ils le regardent comme un monstre, un être hors de la nature. Et ils sentent grandir en eux ce mépris qu'ils ne pouvaient expliquer avant. de leur mère pour la blanchotte, la blanchotte. Simon, lui, s'est appuyé contre un arbre pour ne pas tomber. Et il reste très triste devant ce grand malheur qu'elle ne peut pas réparer. Il cherche à s'expliquer, mais il ne peut rien trouver pour leur répondre, rien dire contre cette chose terrible. Il n'a pas de papa. Enfin, tout pâle, il leur crie sans réfléchir, « Si, j'en ai un !»« Où est-il ? » demanda le garçon. Simon se tait. Il ne sait pas. Les enfants rient, de plus en plus contents, et ces fils des champs, qui ressemblent plus à des bêtes, sont comme des poules qui ont le besoin méchant de tuer l'une d'entre elles aussitôt qu'elle est blessée. Simon voit tout à coup un petit voisin, le fils d'une veuve, qu'il a toujours vu comme lui-même, tout seul, avec sa mère. « Et toi non plus, dit-il, tu n'as pas de papa. »« Si, répond l'autre, j'en ai un. »« Où est-il ? » reprend aussitôt Simon. « Il est mort, dit l'enfant très fier. « Il est au cimetière, mon papa. » Tous les garçons sont d'accord. Ils pensent que c'est très bien d'avoir son père mort au cimetière, mais lui, l'autre, il n'en a pas du tout. Leurs pères, à eux, sont presque tous méchants, ivrognes, voleurs et durs avec leurs femmes, mais ils se servent de plus en plus comme pour étouffer celui qui n'est pas comme les autres. L'un d'eux, tout à coup, qui se trouve contre Simon, lui tire la langue d'un air moqueur et lui crie « Pas de papa! Pas de papa! » Simon le saisit à deux mains, aux cheveux, et se met à lui donner des coups de pied dans les jambes pendant qu'il lui mord la joue. Tout le monde remue de tous les côtés. On veut se placer entre les deux ennemis et Simon se trouve frappé, battu, roulé par terre au milieu d'un groupe de gamins qui applaudissent. Comme il se relève en nettoyant avec sa main, sans réfléchir sa petite blouse toute sale de poussière, quelqu'un lui crie « Va le dire à ton papa !» Alors, il sent dans son cœur une grande tristesse. Ils sont plus forts que lui, ils l'ont battu, il ne peut rien leur répondre, car il sent bien que c'est vrai, qu'il n'a pas de papa. Plein de courage, il essaie pendant quelques secondes de lutter contre les larmes, qui l'étouffe. Il tousse, puis, sans cri, il se met à pleurer avec des grosses larmes. Alors, une joie méchante saisit ses ennemis et d'une façon naturelle, sans réfléchir, ils se prennent par la main et se met à danser en rond autour de lui en répétant comme une chanson. « Pas de papa! Pas de papa !» Mais Simon, tout à coup, cesse de pleurer. Il devient fou de colère. Il y a des pierres sous ses pieds, et il les ramasse, et de toutes ses forces les lance contre ses ennemis. Deux ou trois sont frappés et se sauvent en criant. Il a l'air tellement effrayant qu'une grande peur saisit les autres. Il manque de courage, comme toujours la foule, devant un homme en colère, et il se sauve. Resté seul, le petit enfant sans père se met à courir vers les champs, car il s'est rappelé quelque chose qui l'a décidé. Il veut se noyer dans la rivière. Et voici, c'est la fin du premier segment de ce conte. Ce conte de Guy de Maupassant, le papa de Simon. Je vous reviens dans quelques instants pour le second segment de ce conte tragique. Pour l'instant, la fin est pour bientôt. À tantôt.
Tellement de blessures dans le cœur, je ne crains plus les collisions. Depuis qu'il m'aime partout où je vais, je me sens bien qu'à la maison. Qu'il soit des leurs ou des miens, j'suis toujours contre la trahison. Sur chemin dangereux, je mets la pédale de gaz à fond. Tellement de blessures dans le cœur, je ne crains plus les collisions. Depuis qu'il m'aime partout où je vais, je me sens bien qu'à la maison. Qu'il soit des leurs ou des miens, j'suis toujours contre la trahison. Bien sûr, je préfère l'amour, mon main vide qu'à faire la guerre. Et quand je suis dans le trou, on me lance jamais l'appel. Lorsque je crie au secours, personne répond à l'appel. Ils disent je suis devenu fou, j'ai des démons dans la tête. Mais c'est comme ça depuis toujours. Si j'étais un ange, je serais pas sur terre. Y'a que le diable qui me fait la cour. Depuis qu'on m'a fait naître, ils peuvent corrompre mon image, ils corrompront pas mon être. Je roule mes rêves et je les fume, aucun esprit par la fenêtre. Chemin dangereux, je mets la pédale de gaz à fond. Tellement de blessures dans le cœur, je ne crains plus les collisions. Depuis qu'il m'aime partout où je vais, je me sens bien qu'à la maison. Qu'il soit des leurs ou des miens, j'suis toujours contre la trahison. Mais dites plus rien, il faut que je pense. Entouré de gens, pourtant j'suis tout le temps seul. Y'a que le diable qui veut qu'on danse. J'fume mes rêves, l'heure se condense. J'en vis plus rien me contente. Il m'en faut plus pour que je me contemple. Quand le jeu est bon, j'en redemande. Repais sur play, je peux pas attendre. Un nouveau monde qu'on recommence. Les fils de pute disent des offenses. Mais je les attaque, je brise leur défense. Chemin dangereux, je mets la pédale de gaz à fond. Tellement de blessures dans le cœur, je ne crains plus les collisions. Depuis qu'il m'aime partout où je vais, je me sens bien qu'à la maison. Qu'il soit des leurs ou des miens, j'suis toujours contre la trahison. Tellement de blessures dans le cœur, je ne crains plus les collisions. Et mon amour est en pause quand ma haine passe à l'action. Depuis qu'il m'aime partout où je vais, je me sens bien qu'à la maison. Et sur chemin dangereux, je mets la pédale de gaz à fond. Tellement de blessures dans le cœur, je ne crains plus les collisions. Et mon amour est en pause quand ma haine passe à l'action.
Reprenons où nous nous sommes laissés un peu plus tôt dans le premier segment de l'émission. Du conte de Guy de Maupassant, dont le titre du conte est « Le papa de Simon ». Et la dernière phrase, lorsque l'on s'est laissé, était « Il veut se noyer dans la rivière ». Il se rappelle que 8 jours avant, un pauvre homme sans travail s'est jeté dans l'eau parce qu'il n'avait plus d'argent. Simon était là quand on le repêchait, et le triste vieux, qui lui semblait d'habitude malheureux, sale et laid, l'a étonné par son air tranquille, avec ses joues pâles, sa longue barbe mouillée et ses yeux ouverts, très calmes. On a dit autour « Il est mort ». Quelqu'un a ajouté « Il est bien heureux maintenant ». Et Simon veut aussi se noyer, parce qu'il n'a pas de père, comme ce pauvre homme qui n'avait pas d'argent. Il arrive tout près de l'eau et la regarde couler. Quelques poissons s'amusent, rapides, dans l'eau claire, et parfois sautent et attrapent des mouches qui volent près de la surface. Il cesse de pleurer pour les voir, car leur mouvement l'intéresse beaucoup. Mais parfois, cette pensée lui revient avec une grande tristesse. Je vais me noyer parce que je n'ai pas de papa. Il fait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffe l'herbe. L'eau brille comme une glace. Et Simon est heureux pendant quelques minutes, calme comme on l'est après les larmes. Et il a de grandes envies de s'endormir là, sur l'herbe chaude. Une petite grenouille verte saute sous ses pieds. Il essaie de la prendre. Elle se sauve. Il court derrière elle et trois fois il essaie de l'attraper. Enfin, il la saisit par le bout de ses pattes de derrière et se met à rire en voyant les efforts que fait la bête pour se sauver. Il tend soudain ses grandes jambes comme des bâtons pendant que l'œil tout rond, elle bat l'air de ses pattes de devant qui remue comme des mains. Cela lui rappelle un jouet fait avec des planches de bois qui font bouger de la même façon des petits soldats collés dessus. Alors, il pense à sa maison, puis à sa mère, et pris d'une grande tristesse, il recommence à pleurer. Tout son corps tremble. Il se met à genoux et fait sa prière, comme avant de s'endormir. Mais il ne peut pas la finir, car il pleure trop. Il ne pense plus, il ne voit plus rien autour de lui. Il n'est occupé qu'à pleurer. Soudain, une main lourde se pose sur son épaule et une grosse voix lui demande « Pourquoi es-tu si malheureux, mon petit ?» Simon se retourne. Un grand ouvrier qui a une barbe et des cheveux noirs le regarde d'un air bon. Il répond avec des larmes plein les yeux et plein la gorge. « Ils m'ont battu parce que je n'ai pas de papa, pas de papa. » « Comment ? » dit l'homme en souriant. « Mais tout le monde en a un. » L'enfant reprend avec peine au milieu des larmes. « Moi, je n'en ai pas. » Alors, l'ouvrier devient grave. Il a reconnu le fils de la Blanchotte. Il est nouveau dans le pays, mais il connaît un peu son histoire. « Allons, dit-il, cesse de pleurer, mon garçon, et viens-t'en avec moi, chez ta maman. On t'en donnera un papa. » Ils se mettent en route, le grand tenant le petit par la main, et l'homme sourit de nouveau, car il est content de voir cette Blanchotte qui est, dit-on, une des plus belles filles du pays. Il arrive devant une petite maison blanche, très propre. « C'est là, » dit l'enfant, et il crie « Maman !» Une femme se montre et l'ouvrier cesse soudain de sourire, car il comprend tout de suite qu'on ne s'amuse pas avec cette grande fille pâle qui reste grave sur sa porte. « Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'est perdu près de la rivière. » Mais Simon saute au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer, « Non, maman, j'ai voulu me noyer parce que les autres m'ont battu, parce que je n'ai pas de papa. » Les joues de la jeune femme deviennent toutes rouges et, blessée jusqu'au fond de son cœur, elle embrasse son enfant très fort pendant que des larmes rapides lui coulent sur la figure. L'homme, ému, reste là, ne sachant comment partir. Mais Simon, soudain, court vers lui et lui dit « Voulez-vous être mon papa ?» Un grand silence se fait. La Blanchotte, rouge de honte, s'appuie sans parler contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'enfant, voyant qu'on ne lui répond pas, reprend. Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer. L'ouvrier, fait comme si l'enfant voulait s'amuser et répond en riant « Mais oui, je veux bien. » « Mais comment est-ce que tu t'appelles ?» demanda alors l'enfant, « pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom. »« Philippe, » répond l'homme. Simon se tait une seconde pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête, puis il tend les bras, tout heureux, en disant, « Eh bien, Philippe, tu es mon papa. » L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrasse soudain sur les deux joues, puis il se sauve très vite à grands pas. Quand l'enfant entre dans l'école le lendemain, un rire méchant le reçoit. Et à la sortie, quand le garçon veut recommencer, Simon lui jette ses mots à la tête, comme une pierre. Il s'appelle Philippe, mon papa. De grands cris de joie s'élèvent de tous côtés. Philippe qui? Philippe qui? Qu'est-ce que c'est ça, Philippe? Où l'as-tu pris, ton Philippe? Simon ne répond rien. Il est très sûr de ce qu'il dit. Il les regarde fièrement, prêt à se laisser battre, mais il ne veut pas se sauver devant eux. L'instituteur arrive pour l'aider et il retourne chez sa mère. Pendant 3 mois, le grand ouvrier passe souvent près de la maison de la Blanchotte et quelquefois il ose lui parler quand il la voit coudre auprès de sa fenêtre. Elle lui répond poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui et sans le laisser entrer chez elle. Cependant, un peu fier et un peu bête, comme tous les hommes, il croit qu'elle est souvent plus rouge que d'habitude quand elle cause avec lui. On commence déjà à parler dans le pays. Simon, lui, aime beaucoup son nouveau papa et il se promène avec lui presque tous les soirs, la journée finie. Il va tous les jours à l'école et passe au milieu de ses camarades, très graves, sans leur répondre jamais. Un jour, pourtant, le garçon qui était son premier ennemi lui dit « Tu as menti. Tu n'as pas un papa qui s'appelle Philippe. » « Pourquoi ça ?» demanda Simon très ému. Le gars se frotte les mains. Il reprend « Parce que si tu en avais un, il sera le mari de ta maman. » Simon est gêné par cette parole si juste. Cependant, il répond « C'est mon papa quand même. »« C'est possible, » dit le garçon en riant d'une manière méchante, « mais ce n'est pas ton papa. » « Tout à fait. » Le petit de la Blanchotte baisse la tête et s'en va en réfléchissant du côté de la forge du père Loison où travaille Philippe. Cette forge est comme enterrée sous les arbres. Il y fait très sombre. Seule la lumière rouge d'un feu énorme éclaire 5 forgerons aux bras nus qui frappent le fer avec un grand bruit. Ils sont debout, entourés de feu comme des diables, regardant seulement le fer qu'ils battent. Simon entre sans être vu et va tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se retourne. Soudain, le travail s'arrête et tous les hommes regardent en faisant très attention. Alors, soudain, au milieu du silence, la petite voix de Simon monte. « Dis donc, Philippe, le garçon de la Michaude m'a raconté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait. « Pourquoi ça ?» demanda l'ouvrier. L'enfant répond aussitôt « Parce que tu n'es pas le mari de maman. » Personne ne rit. Philippe reste debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains posé sur le manche de son marteau. Il pense. Ses quatre camarades le regardent et, tout petit entre ces hommes très grands, Simon, inquiet, attend. Tout à coup, un des forgerons qui pense la même chose que les autres dit à Philippe « C'est quand même une bonne fille, la Blanchotte, et courageuse et sérieuse, malgré son malheur. Elle serait une femme très bien pour un homme honnête. » « Ça, c'est vrai, » disent les trois autres. L'ouvrier continue. « Est-ce que c'est sa faute si elle a eu un enfant? On lui a promis le mariage et malgré cela, on l'a laissé seule avec le petit. « Ça, c'est vrai, » répondent les trois hommes. Il reprend. « Elle a beaucoup travaillé, la pauvre. » pour élever son garçon toute seule, et elle a beaucoup pleuré depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église. Il n'y a que le bon Dieu qui le sait, vraiment. C'est encore vrai, disent les autres. Alors, on n'entend plus aucun bruit dans la forge. Philippe, soudain, se penche vers Simon. Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. Puis, il pousse l'enfant dehors par les épaules. Il revient à son travail et d'un seul coup, les cinq marteaux retombent ensemble. Ils battent ainsi le fer jusqu'à la nuit, forts, joyeux, comme des marteaux contents. Mais le marteau de Philippe, faisant plus de bruit que les autres, retombe de seconde en seconde avec une force terrible. Et lui, l'œil brillant, forge de tout son cœur, debout auprès du feu. Voilà, c'était le deuxième segment du conte de Guy de Maupassant, le papa de Simon. Pardon, vous étiez à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. Paysage littéraire vous souhaite un bon moment et à bientôt.